Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Ravie de vous retrouver cette semaine pour une émission spéciale. Puisque oui, c'est le Festival de Cannes et à cette occasion, Clap s'est installé sur la Croisette pour célébrer le 75e Festival de Cannes. Et comme le dit si bien Vincent Lindon, président du jury cette année, c'est la magie du cinéma à Cannes. Pendant 24 heures, on a l'impression d'être unique. Eh bien moi, je vais vous donner l'impression d'être unique pendant une heure et c'est déjà pas mal. En première partie, nous reviendrons sur l'événement de la semaine, la présentation hors compétition de Top Gun Maverick en présence de Tom Cruise et toute l'équipe du film. J'aurai ensuite le plaisir de recevoir l'actrice Léa Seydoux, une habituée du Festival de Cannes, qui présente deux films cette année. Elle va tout nous dire. Romain Duris, lui, viendra nous parler de Coupé, le film qui a fait l'ouverture mardi du festival et qui est actuellement en salle. Et puis en compagnie de mes stars à moi, franchement vous n'avez rien à envier aux stars hollywoodiennes.
C'est gentil ça.
Didier Alouche et Victor Bonnefoy, bonjour à tous les deux.
Bonjour Laurie, bonjour Victor, bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour, bonjour Laurie, bonjour Didier.
Nous vous parlerons également des temps forts de cette première semaine. Alors Didier, vous êtes là, d'habitude vous êtes avec nous, mais bon, virtuellement parlant,
là,
puisque
là.
Vous êtes à la zone, là vous êtes là, là.
On le voit en vrai, on peut le toucher, là. C'est incroyable.
Non, vous pouvez pas.
Parce que Didier a notamment présenté la masterclass avec Tom Cruise. On va revenir dessus dans quelques instants, mais ça reste un bon souvenir.
Ah ouais, énorme, énorme.
Victor, des coups de cœur ?
Ah oui, plein de films merveilleux sur cette croisette. Le début est très très fort et on va revenir notamment sur le dernier film de James Gray, énorme claque avec Anthony Hopkins ou Anne Hathaway, c'est merveilleux.
Puisqu'au moment où on vous parle, donc, nous sommes le fameux premier week-end du Festival de Cannes, donc il reste encore une semaine.
Trop de films, trop de fatigue.
Trop de films à voir.
On est même pas au milieu.
Mais que du bonheur. Voilà pour le programme de votre clap qui commence maintenant.
Ses exploits sont légendaires.
Europe 1, l'événement Top Gun Maverick est dans Clap.
Vous l'avez forcément reconnu cette musique, en même temps je la passe chaque semaine tellement je suis fan depuis que je sais que le film va être présenté au Festival de Cannes. Effectivement, il était impossible cette semaine à Cannes de passer à côté de la présentation de Top Gun Maverick, le film qui a fait sensation sur la croisette mercredi. Il était présenté hors compétition entre la Patrouille de France, le feu d'artifice, la Palme d'honneur surprise pour Tom Cruise. Le Festival de Cannes a vu les choses en grand pour la suite tant attendue de Top Gun. Alors accrochez vos ceintures, c'est parti pour cette première partie de Haut Vol. Alors Top Gun Maverick, c'est un fantastique retour à la prestigieuse école Top Gun où sont formés les meilleurs pilotes de l'armée américaine. Évidemment, Pete Mitchell, dit Maverick, est depuis 30 ans l'un des meilleurs pilotes. Et cette fois, l'école le rappelle, non pas pour le faire voler, mais pour lui demander de former un groupe de jeunes diplômés pour une mission aussi importante que périlleuse.
Capitaine de vaisseau Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc. Vous n'étiez pas mon premier choix.
Et c'est reparti.
On va devoir se battre, comme aucun pilote ne l'a fait avant nous. Même pas lui.
Là-haut, tu penses, t'es mort. Fais-moi confiance.
Mon père avait confiance en vous. Je ferai pas la même erreur.
Et évidemment, première question, les garçons, vous en avez pensé quoi de ce Top Gun ?
Alors moi, je l'attendais beaucoup, mais après, je suis extrêmement fan du premier Top Gun de Tony Scott, qui a mal vieilli, à plein d'aspects, qui est d'une toxicité masculine absolument incroyable. Et puis, je m'attendais à ce Top Gun Maverick à retrouver ce que j'aime dans le premier Top Gun, à savoir des gros avions qui font des figures et de la tension homoérotique. Et c'est exactement tout ce que j'ai retrouvé dans ce deuxième Top Gun. Des mecs très musclés qui font du volet sur la plage en se montrant qui sait qui est la plus grosse et les gros biscottos. Et des avions qui font des grosses figures tous ensemble, super impressionnantes, pilotées par le vrai Tom Cruise. Si c'est ce qu'on attend, c'est le Tom Cruise show, eh ben on a ça et ça nous fait beaucoup de bien.
On a ça, mais on a encore plein d'autres choses. C'est-à-dire que, en plus, bien au-delà du film de Tony Scott, que j'adore hein, évidemment, moi je trouve ce film presque mieux. Je vais me faire massacrer par des tonnes d'internautes, mais tant pis, je trouve ce film presque mieux parce qu'il y a au centre du film, évidemment, c'est probablement le film le plus spectaculaire qu'on va voir cet été. C'est incroyable, les scènes d'action sont folles, absolument hallucinantes. Mais au cœur du film, il y a la transmission. Comment on s'arrête ? Comment on met fin à sa carrière quand on a été le meilleur ? Comment transmettre aux autres ? Et comment se dire, c'est maintenant que je dois arrêter ? C'est la question que se pose Maverick, c'est la question que se pose probablement aussi Tom Cruise. Et puis, il y a déjà cette phrase qui est devenue un classique quand son général lui dit « Vous savez, vous devenez un dinosaure, il va bientôt falloir arrêter. » Il regarde et lui dit « Peut-être, monsieur. » Mais pas aujourd'hui.
Ouais,
le film,
today.
C'est ça, et ça marche à fond.
Mais c'est intéressant justement que Tom Cruise il soit arrivé à un moment de sa carrière où il devient une sorte de vestige du passé, même d'un cinéma d'action passé. Et comment est-ce qu'on prend ce cinéma d'action très années 80, très années 90 pour le ramener justement en 2022, pour réussir à le moderniser à plein d'aspects et en donner une nouvelle forme. Il n'y a que Tom Cruise qui peut faire ça. Je pense que c'est le dernier à faire ça. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il fera ensuite, quand il ne pourra plus faire de l'action, quand il ne sera plus un corps d'action, quand Tom Cruise utilisera une canne et sera...
30-40 ans, c'est ça ?
Jamais, ça n'arrivera pas.
Quand il sera devenu un cyborg. Voilà, le Tom Cruise cyborg. Ben, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner l'après.
Alors, Tom Cruise, justement, on continue d'en parler puisque Didier a eu la chance de rencontrer Tom Cruise ici, bien sûr, lors d'une masterclass. Et puis avant, c'était à San Diego, c'est ça ?
Sur un porte-avions, sur l'USS
Sympa.
Midway.
Excusez-nous.
À la première mondiale du film où Tom Cruise, j'allais dire Top Gun, c'est, les deux vont ensemble, où Tom Cruise est arrivé en hélicoptère qu'il pilotait lui-même. Il a fait atterrir sur le pont. Il a traversé tout seul au milieu de d'anciens militaires. Il est passé comme ça en bougeant la main et en saluant tout le monde. C'était une image magique. On avait l'impression d'être dans Top Gun. Et il a été très, très classe puisqu'il a parlé à tout le monde. Il y avait une centaine d'équipes et il s'est arrêté à tous les médias et il nous a donné du temps et on a pu lui poser quelques questions auxquelles il a répondu avec beaucoup de passion. Il est, c'est vraiment ce type-là, c'est vraiment la dernière movie star. Quoi. On en pense qu'on veut, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui sait faire le boulot.
On l'écoute tout de suite.
Let me ask you a very simple question. Why did you want
Maverick
to go back to
Top Gun?
Why did you want to go back to Top Gun?
Because the audiences were asking for it. They were asking for it for a long time.
Parce que le public le demandait depuis longtemps. Moi, je veux juste distraire le public et trouver le bon moyen pour le faire. J'ai réalisé que c'était ça, le bon moyen. J'y pensais depuis des décennies. J'ai évalué la technologie, l'histoire et sa structure. J'en ai parlé avec McQuarrie, Joe Kosinski, Jerry Bruckheimer. Le public le voulait, ce film est pour eux.
It's a tricky movie because you have to balance the nostalgia.
C'est un projet difficile. Il fallait équilibrer la nostalgie qui plaît à notre génération et la modernité pour les gamins. Comment faire ?
You're right, and also having.
C'est vrai. Et il fallait que chacun comprenne ce qu'était Top Gun. J'ai montré le film à tout le monde parce qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un drame. Il fallait qu'ils le comprennent. Chacun a sa vision du film. Il fallait respecter l'histoire. Je savais comment ouvrir le film. Je l'ai toujours su. Je dis ainsi au public en montrant les images iconiques de Top Gun qu'il aura ce qu'il attend. Mais il doit y avoir une évolution. Je voulais une bonne histoire, un bon casque, mais surtout une histoire complète pour le public. Tout ce qu'on aime doit être dans le film. Je veux impliquer le public. À part ça, on suit la ligne.
There's a certain point where you're working on something and story's king.
À un certain point, quand on travaille sur un projet, l'histoire est reine. On trouve ce qui marche et on suit ça. Peu importe votre opinion, l'histoire prend vie par elle-même. Plus on travaille dessus, plus le film vous dit ce qui marche ou pas. Mais c'est vrai, l'équilibre est délicat. Il est plus facile de faire un film original qu'un film comme celui-là.
Alors Didier, Victor, nous de notre côté, nous avons eu la chance d'interviewer tout le casting du film et c'était effectivement l'occasion de leur demander qu'est-ce que ça fait quand même de travailler aux côtés de Tom Cruise, de cette immense star.
Tom est le professionnel ultime, mais il prend aussi le temps de connaître absolument tout le monde sur le plateau. Il est incroyablement gentil, travailleur et passionné. Je pense que travailler avec Tom profite à tout le monde. J'en suis même sûr à 100%.
Tom est vraiment extraordinaire. Il est tellement talentueux dans plein de choses différentes. Il est tellement enthousiaste dans tout ce qu'il fait tout le temps, tous les jours. Et c'est très contagieux et absolument fabuleux d'être à ses côtés.
Comment était-il sur le tournage ? Je dirais passionné, d'une passion qui se propage à toute l'équipe. Tout le monde sentait son énergie et c'est juste vraiment génial de travailler avec lui.
On vient d'écouter donc Jennifer Connelly qui joue dans le film, Miles Taylor également, et puis Joseph Kosinski, le réalisateur. Jennifer Connelly qui revient aussi pour nous sur son personnage et sur sa relation avec Maverick.
Penny Benjamin, my character, is mentioned in the original.
Mon personnage, Penny Benjamin, a été mentionné dans le premier film et ils se sont perdus de vue et cherchés l'un et l'autre pendant des années. Et je pense qu'il y a une raison à ça. Ils sont bien ensemble. Elle est taquine avec lui, elle a beaucoup d'humour et elle le connaît vraiment très bien. Je pense qu'elle l'aime beaucoup, mais qu'en même temps, elle se pose des limites. J'aime beaucoup ce qu'ils sont tous les deux. Je suis d'accord pour dire qu'ils ont une très belle histoire d'amour dans le film.
Alors, Victor, un mot quand même sur le réalisateur donc, de ce nouveau volet, de ce Tom Cruise Maverick. C'est Joe, Joseph Kosinski.
Tu l'appelles Joe, dis donc.
Je ne le connais pas, mais je me familiarise tout de même avec
déjà, lui. Déjà très proche. Non, Joseph Kosinski, on l'a vu s'illustrer dans plusieurs longs-métrages absolument... intéressant, j'allais dire brillant, mais le mot était peut-être un peu fort. C'était toujours très intéressant sur comment il traite l'action. C'est notamment lui qui avait officié en tant que rebooter, la personne qui a fait la suite de Tron Legacy, qui était sorti au début des années 2000, qui était un pari pas simple et qui arrivait à y insuffler une vraie dose de modernité. Et puis ensuite, il avait essayé de développer un univers un peu éthéré, un peu de science-fiction, avec le film Oblivion qui avait déjà Tom Cruise à l'intérieur. Et puis, il ne faut pas oublier un autre petit film qu'a fait Joseph Kosinski, qui malheureusement est arrivé en France en VOD un peu discrète, mais qui est tout aussi important avec Miles Teller comme Top Gun Maverick. C'est Line on Fire, un film sur les pompiers américains qui là aussi a sa bonne dose d'action. C'est assez intéressant, intéressez-vous à sa carrière et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on le retrouve aux manettes d'un Top Gun Maverick, c'est parce qu'il fait partie de ces nouveaux cinéastes qui arrivent à insuffler dans le cinéma d'action une nouvelle dynamique absolument passionnante.
Joseph Kosinski qui justement nous confiait les enjeux de réaliser un autre Top Gun, un Top Gun nouvelle génération avec ce Top Gun Maverick.
C'est différent des films que j'ai fait auparavant parce que là on entre dans une sorte de terre sacrée du cinéma. C'est sûrement le rôle le plus iconique de Tom. Donc quand je l'ai vu le premier jour sur le plateau, habillé en Maverick, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. On ne voulait pas faire simplement une copie du premier film, mais en même temps, je voulais que les spectateurs se rendent compte dès le début que c'est un Top Gun. Je voulais qu'ils sachent que j'aime Top Gun autant qu'eux, mais que ce serait un nouveau chapitre.
Alors c'était un passage éclair de Tom Cruise sur la croisette à Cannes, puisque le lendemain, il était en Angleterre pour présenter le film. Mais Didier, vous l'avez quand même rencontré, vous avez présenté cette masterclass. Ça fait quoi de présenter une masterclass avec Tom Cruise ?
C'est extraordinaire parce que c'est des plus grandes stars au monde qui acceptent de donner du temps. Vous venez de le dire, il était vraiment en tournée. Il passe à droite, à gauche. Ils sont restés 7-8 heures à Cannes. Et il a bien voulu donner du temps au public et il a partagé des moments de sa carrière avec les 1000 personnes qui étaient dans la salle. Et moi, j'ai eu une chance extraordinaire de mener l'interview, mais c'était lui. Et puis,
avouez-le, vous avez fait le petit selfie ou pas ?
Non.
Mais non.
Je fais jamais de selfie.
Mais Tom Cruise.
Ouais, non, mais je peux pas.
Il y a pas d'exception, bon.
C'est pas.
Il était content. Vous avez eu des informations.
Il était très heureux de sa journée cannoise, parce qu'il y a eu le soir même, il y a eu un hommage qui lui a été rendu sur scène.
Très bel hommage, une palme d'honneur.
Une surprise, puisqu'il ne le savait pas, une palme d'honneur. À la fin, pour remercier toute l'équipe, j'ai envoyé un petit mot de remerciement et le retour que m'a fait sa publiciste, elle me dit Tom a vécu cette journée comme un rêve. Il continue à se pincer pour croire que c'est vraiment arrivé. Voilà, il était heureux comme tout. C'est un type qui adore le cinéma, donc qui adore Cannes. Et je pense vraiment qu'il a vécu une belle journée, et puis nous aussi.
Ah bien sûr, avec Tom Cruise, elle est toujours plus belle la journée. Alors évidemment, Top Gun, on en reparlera la semaine prochaine, puisque le film sortira mercredi prochain. J'en profite pour vous dire qu'à l'occasion de la sortie du film sur Europe 1, puisque Europe 1 est partenaire de la sortie de Top Gun Maverick, on vous fait gagner de magnifiques cadeaux, des packs collector Top Gun Maverick composés d'un blouson, un sac, un t-shirt, une casquette, un écusson autocollant, ainsi que l'album de la bande originale et deux places de cinéma. D'ailleurs, c'est Lady Gaga qui interprète la bande originale du film. Alors pour tenter votre chance, vous devez vous inscrire sur le site clube1.europe1.fr. Et ne bougez pas, dans un instant, c'est une habituée du festival. Léa Seydoux sera mon invitée. Elle présente deux films pendant ce festival de Cannes. Celui de Mia Hansen, Love, un beau matin, où elle partage l'affiche aux côtés de Melville Poupeau. Et le film de David Cronenberg. On saura tout dans un instant sur Europe 1.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Nous sommes toujours au Festival de Cannes. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 et j'ai le plaisir de recevoir l'une des actrices les plus attendues sur la croisette, qui connaît bien le festival, une habituée. Bonjour Léa Seydoux.
Bonjour.
Alors je suis ravie qu'on se rencontre, surtout pour ce film dont on va parler dans quelques instants, Un beau matin. Juste un mot, forcément je suis obligée de vous poser la question. Vous étiez l'année dernière l'une des personnalités les plus attendues du festival, avec 4 films en compétition. Vous n'avez pas pu venir à cause du Covid, que vous avez attrapé d'ailleurs sur le tournage d'Un beau matin. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça ?
Écoutez, quand j'ai su que j'avais le Covid, j'étais un peu dépitée, mais en même temps, voilà, c'est la vie. Enfin, je ne pouvais rien faire et c'était comme ça, il fallait l'accepter. Donc j'ai vécu le Festival de Cannes depuis ma chambre et voilà, c'est la vie.
Et vous êtes là donc cette année pour présenter Un beau matin, le film de Mia Hansen Love. Vous présentez aussi le film de David Cronenberg, Les Crimes du Futur. C'est toujours une émotion particulière de présenter un film à Cannes ?
Cannes, oui, c'est toujours une émotion très forte et à la fois c'est très intense. Et j'ai vécu des émotions tellement fortes ici à Cannes que
la Palme d'Or pour La Vie d'Adèle,
oui, la Palme d'Or,
dans le jury.
C'était incroyable et c'est vrai qu'il y a quelque chose où oui, je me sens un peu comme
chez
à la maison, exactement.
Ouais. Ouais. Mais vous pouvez le dire, Léa Seydoux, vous êtes chez vous ici. En tout cas, nous, on aime bien quand on voit la sélection tomber avec des films où vous êtes présente. Alors, Un beau matin est présenté à la quinzaine des réalisateurs. Vous jouez une femme face à la maladie, mais en même temps face à l'amour aussi. Quand même terrible de voir la maladie de son père et en même temps l'amour qui croise sa route de nouveau, puisque c'est une femme aussi qui a vécu un deuil. C'est un rôle, je crois, que Mia Hansen-Løv a écrit pour vous. Comment est-ce qu'elle vous a présenté ce projet? Qu'est-ce qui vous a plu?
Alors quand j'ai lu le film, c'était pendant le premier confinement et c'est vrai que c'était un moment où j'étais un peu triste et j'avais peur de l'avenir, j'étais un peu perdue et il y avait James Bond qui avait été décalé, la sortie, donc je sais pas, tout d'un coup ce film est arrivé comme une consolation et j'ai été très émue par le scénario, très émue par la simplicité de l'histoire en apparence. Et c'était la première fois aussi qu'on m'offrait un rôle d'une femme normale, entre guillemets, qui n'est pas...
pas la femme de James Bond.
Voilà, qui n'est pas un objet de désir ou un objet de mystère. Voilà, un rôle qui serait accessible et universel.
C'est vrai, d'ailleurs, cette simplicité, elle est dès ce premier plan de vous dans la rue où on peut complètement s'identifier dès le départ, en fait. Le ton est donné dans ce film.
Exactement. Oui, oui, le ton est donné. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à incarner cette femme qui pourrait être
la voisine de palier.
La voisine de palier, exactement. Souvent, ce qui me bouleverse, c'est en fait dans la banalité de la vie, c'est cette banalité qui est extraordinaire. Et dans la banalité de la vie, on est confronté à des choses terribles, nous tous. La mort des parents, la maladie des parents, c'est quelque que nous vivons tous. Et c'est vrai que finalement, cette histoire-là était bouleversante, d'autant plus que c'est l'histoire de Mia Hansen-Løv, la réalisatrice. Et parallèlement, cette histoire d'amour qu'elle va vivre est d'autant plus intense et puissante parce qu'elle est confrontée à la mort prochaine de son père.
Vous jouez avec Melville Poupeau, qui est présente d'ailleurs aussi le film d'Arnaud Desplechin, que vous connaissez bien. Il n'a pas vu d'ailleurs le film, hein. Il dit qu'il veut le découvrir ce soir avec le public canois.
Comme Pascal Grégory ne l'a pas vu, je ne sais pas si Nicole l'a vu, je crois pas.
Ah, ils l'ont pas
en fait,
pas.
Je crois être la seule à l'avoir vu.
Melville Poupeau, vous le connaissiez avant de faire ce film ?
Melville, je le connaissais, oui, parce que j'avais déjà tourné très très brièvement avec lui il y a très longtemps dans un film de Raoul Ruiz qui était une grande fresque et on avait une petite partition tous les deux. Donc oui, je connais Melville et oui, on a eu une complicité immédiate.
Lui, il est aussi là pour le film d'Arnaud Desplechin, Frères et Sœurs, il joue aux côtés de Marion Cotillard. C'est un metteur en scène particulier, Arnaud Desplechin, c'est qu'il a une direction d'acteur extraordinaire. Melville, donc il n'a pas non plus vu le film d'Arnaud Desplechin. Et vous pensez qu'il va être surpris? Vous avez été surprise, vous, quand vous êtes découverte dans les films d'Arnaud?
Dans les films d'Arnaud, alors je crois que j'ai toujours quand même vu les films en amont. Parce que j'ai toujours... j'aime bien savoir à quoi je vais m'attendre. Et surtout, la première fois qu'on voit un film, qu'on se découvre, en général, c'est toujours on voit ses défauts et c'est déstabilisant.
Donc il risque d'être quand même une surprise. C'est vrai que c'est un metteur en scène particulier.
Ah oui, alors Arnaud Desplechin, moi, j'adore tourner avec lui. C'est vraiment un des grands, grands directeurs d'acteurs en France. Et c'est toujours d'une intelligence, je veux dire, incroyable. C'est passionnant de tourner pour lui.
Vous avez dit récemment, Léa Seydoux, j'ai un corps, je suis charnelle, j'ai des cernes. Et le cinéma européen, vous savez où?
Ils ont gardé cette phrase.
Ah, ouais. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle est intéressante. Vous dites que le cinéma européen me permet de l'imposer. Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression, effectivement, vous avez toujours été très libre. Mais vous arrivez à assumer cette liberté avec, on a l'impression, beaucoup de facilité. Mais forcément, cette liberté, elle a toujours un prix. C'est pas si facile d'arriver à faire ce genre de choix, je suppose.
Non, c'est pas facile, mais vous savez, c'est étrange parce que je pense que quand j'étais une jeune femme, très jeune femme, j'étais un peu, mon corps était comme quelque chose qui m'intimidait. Et je pense que le cinéma m'a permis de transformer, si vous voulez, cette intimidation d'un corps qui se transforme, parce que voilà, contrairement aux hommes, on a vraiment une transformation qui est, oui, je trouve, encore plus... flagrante. Mmh. Et si vous voulez, ça m'a permis, le cinéma m'a permis de transformer ce désarroi en une force, en une puissance. Et je pense que mon corps de femme au cinéma est finalement une force et quelque chose avec laquelle, évidemment, je joue, hein, parce qu'on ne joue pas seulement avec ses émotions, mais on joue avec son corps.
D'ailleurs, dans Un beau matin, il y a des scènes absolument sublimes. On dirait des tableaux, la façon dont elle vous filme Mia Hansen-Løv. C'est tellement pur, c'est pudique, c'est effectivement dans la simplicité de cette histoire universelle d'amour, de cette femme aussi qui redécouvre l'amour, qui a oublié qu'elle était femme, elle s'est considérée mère pendant les dernières années.
C'est vrai.
Et c'est très beau comme la façon dont elle dont
oui,
elle
oui, bien
filme.
Sûr, elle redécouvre son corps, elle tout d'un coup elle découvre enfin ou elle redécouvre sa sexualité. Mais ce que je trouve aussi beau dans le cinéma, c'est que aujourd'hui, on est quand même on est assailli d'images de beauté un peu parfaite, un peu retouchée avec qui sont en fait un mensonge pour moi. Et que c'est vrai qu'au cinéma, j'ai l'impression que le corps de la femme tel qu'il est dans son imperfection, et pour moi, je dis ça comme étant une qualité parce qu'on voit des corps, des vrais corps.
Bien
et
sûr.
C'est ça que j'ai envie de voir au cinéma. En fait, le cinéma me plaît parce qu'il me rattache aussi à la vie. Alors qu'aujourd'hui, on est tellement... Voilà, j'ai l'impression que toutes ces... avec les réseaux sociaux, il y a tout un mouvement qui est pour moi assez désespérant et
en dehors de la réalité.
En dehors de la réalité, exactement.
Alors, dans cette continuité aussi, je suis obligée de vous poser la question parce que ça a été annoncé là, je crois, juste avant l'ouverture de Cannes. Vous allez jouer dans Emmanuel, le remake par Audrey Diwan de ce roman culte érotique. Ça ne se refuse pas, de toute façon, je suppose, une proposition d'Audrey Diwan.
Alors, ça ne se refuse pas, mais c'est surtout que j'étais très, très... Enfin, je suis vraiment très excitée à l'idée de ce projet parce que, évidemment, ça va être un regard féminin. Sur cette histoire, et c'est un acte très féministe, je trouve, de la part d'Audrey Diwan, que de se confronter à ce sujet-là. Et là encore, j'ai le sentiment que je serai d'une certaine façon un peu co-autrice du film. Enfin, on va vraiment faire le film ensemble et de parler de notre rapport à la sexualité, nous femmes, que je trouve qui est souvent, trop souvent vue du point de vue des hommes. Et vraiment, c'est un sujet que je trouve intéressant et qui est encore, à mon sens, inexploré.
Je vais devoir vous quitter malheureusement parce que vous êtes très demandé. J'ai forcément juste une dernière question sur le film de Cronenberg qui est présenté aussi ici, qui est une métaphore sur ce qu'est être un artiste aujourd'hui. C'est quoi être un artiste aujourd'hui pour vous, Léa Seydoux ?
Alors, être un artiste aujourd'hui, c'est une bonne question. C'est très galvaudé. Alors, je pense qu'on n'est pas tous des artistes et que, par exemple, il y a certains acteurs qui sont des artistes, d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des artistes. Mais pour moi, être un artiste, c'est questionner. C'est questionner le monde qui nous entoure. Et c'est faire aussi surgir quand même une forme de vérité. Et j'ai l'impression que, en tant qu'artiste, en tout cas, j'ai envie qu'on m'offre la possibilité de me poser des questions. Et pour moi, le contraire d'un artiste, c'est quelqu'un qui offre des réponses.
Merci beaucoup Léa Seydoux, bonne fin de festival. Et puis on reparlera de toute façon d'Un beau matin, le film de Mia Hansen-Løv, au moment de sa sortie en salle. Surtout, ne bougez pas dans un instant, c'est Romain Duris qui sera à mes côtés. A tout de suite sur Europe 1.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 pour notre émission spéciale Festival de Cannes. C'est depuis la Croisette que nous enregistrons cette émission et j'ai le plaisir de recevoir à mon micro celui qui a fait l'ouverture du festival mardi, entouré de toute l'équipe du film Coupé, c'est Romain Duris. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors vous l'avez vécu comment cette ouverture de festival ?
Magnifique, magique. Cannes, l'ouverture, c'est génial parce que ce film est un peu un hommage au cinéma, à la fabrication du film. Et je pense qu'il donne envie de fabriquer d'ailleurs, chaque personne peut... avoir cette sensation-là. Et du coup, en ouverture de ce festival dédié au cinéma de partout, c'est assez cohérent, culotté, parce que c'est comme un film... il faut le voir, mais c'est quand même... C'est couillu, quoi.
Complètement barré, on peut le dire.
Et donc c'est super.
Puis il y a plusieurs films dans le film, hein. on va en parler.
Plusieurs films dans le film, ouais. Faut pas se perdre.
C'est le remake d'un film japonais, vous avez vu l'original ?
Ouais.
Vous en avez pensé quoi ?
Hyper charmant.
Vous l'avez vu avant de tourner celui-là.
Oui, puis après, il fallait s'en séparer total et puis se réaccaparer le nôtre et trouver des repères avec notre monde à nous, quoi. Mais l'original, il est super aussi. Ça, c'est un travail d'école, je crois.
Un film étudiant avec zéro budget. Ça s'appelle Ne coupez pas.
Et on sent, mais je crois que c'est ça qui est beau dans le film aussi de Michel, c'est qu'il rappelle ce plaisir-là, quoi, d'être entre étudiants et de faire un film entre nous. Évidemment, se faire peur avec du faux sang, ça marche toujours. D'ailleurs, les plus jeunes, ils ont envie dès qu'on parle de zombies et de faux sang, ils ont envie de voir ce que c'est. Et voilà, il y a un plaisir de faire du film entre nous, quoi.
Laurent, il devient Akira, Muriel, elle devient Natsumi, et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Par contre, rigole pas, Non, hey, je te jure, je te marre pas. C'est moi qui suis les grands mecs.
C'est mon film. Tu fermes ta gueule. Tu me fais chier depuis le début des répétitions. Alors maintenant, tu fermes ta grande gueule de con.
Vous jouez un réalisateur dans le film qui attend encore finalement le grand projet de sa vie, en tout cas qui n'a pas la carrière probablement qu'il espérait. C'est quoi votre regard sur ce personnage?
Bon, j'ai essayé de pas trop le juger, il est tout doux, il manque un peu de motivation au départ dans sa vie, enfin en tout cas il est un peu résigné au fait de faire des films d'entreprise ou des trucs pour internet, des petits documentaires. Mais ce qui est génial, c'est que pendant tout le film, on va le voir, et il a une motivation qui naît en lui et qui est comme une vengeance sur tout ce qu'il a fait avant. Et il veut arriver au bout, parce que c'est ça aussi le cinéma, quoi. Peu importe en fait ce qu'on est en train de faire aussi. L'important, c'est d'être motivé, d'embarquer tout le monde, une équipe, et finir ce tournage, quoi.
Et puis, il veut rendre fière sa fille aussi.
Il veut rendre fière sa fille. Je pense qu'il y a un peu d'émotion aussi à la fin humaine. Ouais.
Votre personnage va réaliser ce film, il est réalisateur, donc il doit réaliser ce film de zombies qui est un long plan séquence, donc un film réalisé en une prise en direct. Ouais. Et puis finalement, il va se retrouver à devoir jouer dedans.
Oui, parce qu'il est arrivé un problème à l'acteur qui jouait le réalisateur. Donc moi-même, réalisateur, vais jouer le réalisateur dans ce film. Et donc ce plan séquence, c'était assez génial. On a répété pendant 5 semaines sur le lieu. Et c'est beau de voir un plan séquence, comment le point de départ et jusqu'où on arrive. Et quand on le filme, on l'a filmé 4 fois en 4 jours. Donc on l'a fait à peu près 15-16 fois. Et ça nous a rapprochés un peu du théâtre. Et puis, entre nous, on s'est très vite connus, enfin rencontrés.
Finalement, tout ce que raconte le film.
Ouais.
Avec autant de péripéties, autant d'imprévus.
Non, parce que, étrangement, c'était très technique, quoi, le travail. Mais comme au théâtre, hein. Donc, c'était assez millimétré, chaque partie. Puis après, on a lié tout et ça a fait ce plan séquence de 35 minutes. Mais non, justement, on a essayé de gérer les accidents.
Comment est-ce qu'on fait pour mal jouer? Parce que vous jouez un comédien novice, donc il y a des moments où vous jouez faux.
Ouais, on faisait gaffe à ça, justement. Parce que... Enfin, Michel nous a jamais poussé dans ce truc de... Attention, jouez pas trop bien, en fait. Peut-être parce qu'on joue mal, à la base. Mais non, parce que sinon, ça fait trop effet de jouer faux. Donc, on a joué simple. Et finalement, c'est la situation qui est bancale, ou c'est ce qu'on dit, ou c'est le rythme. D'un coup, on dit un truc, puis il se passe rien. Donc là, c'est comme si on avait joué faux. Mais par contre, dans le ton, etc., on ne s'est pas forcé à faire les mauvais acteurs, quoi.
Oui, ou à surjouer.
Ou à surjouer, ouais.
Romain Duris, est-ce que ça vous est déjà arrivé de telles mésaventures sur un plateau de tournage? Pas forcément celui-là, mais autant.
Non, parce que notre métier, c'est de prendre en compte les trucs.
Faut que ce soit quand, bien préparé.
Quand, bien préparé, mais aussi quand il se passe un imprévu, soit on ne s'entend pas avec son partenaire, soit le réal nous emmerde. Soit... Il peut arriver des choses comme ça, humaines. Mais je veux dire, on joue avec, on va pas arrêter le truc en disant « Ah non, mais j'aime pas mon collègue » ou je sais pas quoi. Donc, et puis on s'en sert, moi j'ai appris à me servir un peu de tout, même quand il y a des problèmes de décor, même des problèmes de météo. Enfin, c'est ça aussi le cinéma, c'est de se servir un peu de tout ce qui va se passer pendant le temps du tournage, qui est pas si long. Je veux dire, un tournage normal, c'est 2 mois. Et même quand c'est des... Même quand on a un réal hystérique, et il y en a.
On ne va pas vous demander de citer des noms.
Non.
votre comédien dans le film et votre partenaire, Fingald, c'est l'acteur qui monte, c'est l'acteur qui... Je ne sais pas vraiment s'il a la grosse tête, mais il est chiant, clairement, quoi. Hein, il est chiant, il se pose beaucoup de questions existentielles. Vous en avez rencontré des comme ça? Ou vous avez pu être comme ça à un moment donné?
Je ne pense pas. Je... Mais par contre, c'est clair que des comédiens en recherche... qui gèrent pas bien leur ego, qui ont le sentiment que leur vie se joue à ce moment-là, et leur carrière aussi, et qui se prennent très très au sérieux, ça existe.
Non, mais qui veulent réécrire le script.
Qui veulent réécrire le script, qui
veulent
parfois réaliser à la place du réal. Ça existe, c'est des travers. Alors moi, j'essaie de toujours excuser en disant, mais il est pas il a pas confiance en lui, c'est le début, il est pas encore dans son rêve. Mais là, le comédien joue Finnegan, il est tout le temps comme ça, quoi. C'est une nature.
On se demande comment votre personnage garde son calme. D'ailleurs, il trouve le moyen, à un moment donné, de d'expulser sa colère. Et puis, on voit vraiment, ça rend vraiment hommage à la force du collectif et à quel point faire un film, c'est vraiment une entreprise collective. Mais de la personne qui gère le catering
C'est quand même très important parfois de faire attention aux allergies ou aux choses des uns et des autres, hein, sinon ça peut faire rater le tournage. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous parle et que vous connaissez très bien.
Ouais, hein. J'adore voir le cinéma. J'adore voir le
cinéma rend hommage à tout ce qui se passe derrière.
Toute la fabrication, les techniciens, le maquillage rapide, les maladresses. Moi, j'adore voir ça.
Et c'est vrai qu'en ça, c'est très réussi. Mais en même temps, Michel Hazanavicius a quand même un amour profond du cinéma. Ouais. On le sait depuis longtemps. Et je trouve que c'est un film essentiel. L'importance de la famille aussi, qui est au centre de ce film. Avec Bérénice Bejo, qui joue donc votre femme. Et la fille aussi de Michel Hazanavicius, qui joue votre fille.
Voilà,
donc, ça faisait, c'était une pression quand même d'avoir toute la famille du réalisateur en partenaire de jeu.
Pas avec Michel. Peut-être avec quelqu'un d'autre, ça aurait été plus compliqué, mais Michel a une façon de m'intégrer, de imposer, mais dans le bon sens. Enfin, ça s'est fait très sainement, en fait. On était dans une période de Covid, etc. Le moment était compliqué. Sa fille veut être comédienne. Elle est venue, on s'est bien entendu. Et c'était naturel qu'elle joue ce rôle.
Elle est formidable.
Et elle est super.
Et finalement, alors pareil, hein, sans dévoiler la fin, c'est un film féministe aussi. Hein, c'est un film sur...
Ouais. Ah bah oui.
Elle vous sauve, les femmes, de pas mal de situations.
Ah bah, de toute façon, la lumière vient souvent de là. Hein. Moi, j'ai toujours pensé. Hein.
Merci, et Romain. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah,
j'en suis sûr depuis toujours.
Romain Duris, Fingal, il joue un zombie. Enfin, il fait le zombie dans le... Ça doit être assez fun à faire, non?
Ah, c'est génial. On voyait travailler, on voyait répéter... Parce que c'est physique quand même si ça...
Ouais, c'est ça.
Il y a un truc un peu saccadé. C'est presque de la danse, quoi. C'est génial de jouer un zombie, je pense.
Et un autre personnage qui est très drôle aussi, c'est Grégory Gadebois.
Je l'adore, Grégory.
Qui est extraordinaire.
Il n'est pas que drôle, hein, il est hyper émouvant.
Hyper émouvant, oui.
Mais,
oui, parce qu'il a un problème avec la boisson.
Ouais.
Donc il promet de ne pas boire. Après, va-t-il tenir? Ça, faudra le découvrir.
Il est beau, Grégory, il est fou. Il est magique, de toute façon, cet acteur. Moi, c'est la troisième fois que je tourne avec lui.
Oui, c'est vrai.
Quand on joue avec lui, en plus, c'est... Parce que là, il y a de la vie qui passe, même si là, on est dans une comédie, que ça déborde dans tous les sens, qu'il y a du sang et tout. Il arrive d'un coup à renvoyer une humanité, quoi, une détresse humaine, au milieu de tout ça. Putain, extraordinaire.
Et c'est aussi un hommage aux figurants, à toutes les personnes aussi sur les tournages.
Ah ouais.
Qui ont des rôles moins importants, mais qui sont essentiels. Ouais. Romain Duris, merci beaucoup d'avoir été mon invité dans ce clap spécial 75e Festival de Cannes. Je rappelle donc que Coupé, c'est le nouveau film de Michel Hazanavicius. Il est actuellement aux salles. C'est un hommage au cinéma, à toute l'industrie du cinéma. Mais sur fond d'attaque de zombies, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour inciter les gens à aller découvrir ce film au cinéma?
Que c'est agréable parce qu'ils participent au film. C'est rare quand même. Il y a une interaction vraiment entre le spectateur et ce qu'il voit, parce que toute la deuxième partie, il va comprendre ce qu'il vient de voir pendant 30-35 minutes. Et du coup, vraiment, il va avoir la réponse à plein de questions qu'il s'est posées. Donc c'est hyper jouissif comme objet, parce qu'il y a vraiment une révélation en direct, quoi, pour chacun.
Oui, surtout, soyez très attentifs à la première demi-heure pour tout comprendre après. Merci beaucoup, Romain, et très bonne fin de festival à vous.
Merci.
14h, 15h, clap.
Laurie Choléva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap pour cette spéciale Cannes, donc s'il y a du bruit autour de nous, c'est normal, puisque un petit peu plus loin, Léa Seydoux continue de donner des interviews. Enfin voilà, il se passe des choses. Nous sommes sur la plage du Majestic à Cannes, pour tout vous dire, puisqu'on vous confie tout aujourd'hui, on vous raconte aussi un petit peu les coulisses de Cannes. D'ailleurs, Victor, vous avez croisé pas mal de stars jusqu'à maintenant.
Oui, on en croise partout, on ne fait que ça, mais je suis ravi d'être actuellement sur cette plage du Majestic pour pouvoir enregistrer ma première émission d'Europe 1 en maillot de bain. Je suis absolument ravi que ça se passe comme ça.
Oui, mais la question est-ce qu'on poste des photos sur les réseaux sociaux?
De moi en maillot de bain?
Oui,
c'est non, déjà fait.
On va éviter, s'il vous plaît.
Didier, je ne lui pose pas la question parce que c'est votre.
Très beau maillot de bain,
c'est
Didier.
C'est votre combienième festival de Cannes, Didier?
C'est mon premier. Non, c'est mon. Le premier film que j'ai vu au festival de Cannes, c'était Pirates de Polanski en 1986. Donc, j'avais 2 ans et demi.
Ça fait c'est ça. Vous étiez dans le ventre de votre mère.
Exactement.
Ça fait un paquet de stars croisées sur la croisette. Alors, bon, qui dit émission spéciale dit sortie spéciale. Vous allez quand même
tout nous dire sur les films que vous avez vus cette semaine. Je sais que vous n'avez pas beaucoup dormi, puisqu'il y a des projets tôt le matin, tard le soir, des dormir. Fêtes aussi, un petit peu.
Je ne vois pas ce que c'est dormir, j'ai oublié.
Est-ce que vous avez eu un coup de cœur, Victor ?
Oui, tout à fait. Alors, coup de cœur, j'en ai eu plusieurs, parce que le début de sélection est quand même très, très fort, il faut le dire, cette année. Thierry Frémaux, avec sa sélection, a vraiment offert au public et à la presse, et aux journalistes et aux professionnels un festival de Cannes qui démarre vraiment très, très bien. Et pour le coup, je suis plutôt ravi d'y avoir découvert James Gray, en tout cas le nouveau James Gray,
oui,
Armageddon
c'est ça,
Time.
Vous connaissiez déjà,
exactement, tout à fait. Donc James Gray qui revient à quelque chose de plus intime après avoir fait des films comme Lost City of Z, comme avoir fait Ad Astra, qui étaient des films qui avaient une grande ampleur en termes de décorum et tout, et qui revient à quelque chose de plus personnel puisqu'il veut nous raconter à travers un casting qui est composé de Anthony Hopkins, de Jeremy Strong que vous avez peut-être vu dans la série Succession, ou de Anne Hathaway, et ben son enfance à New York dans les années 80, et comment ce petit gamin qui était dans un cursus public va se retrouver dans un cursus privé, et comment ce gamin ne va jamais se retrouver dans le cadre scolaire et va avoir envie de devenir artiste, comment il va réussir à s'émanciper de tout ce qu'il y a autour. Le film est touchant, le film est brillant, la relation avec son grand-père dans le film, ce petit garçon, est absolument merveilleuse, et je crois que c'est mes plus grosses larmes du Festival de Cannes, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est un film qui m'a attrapé comme rarement on m'a attrapé, et j'ai passé tout le générique de fin à pleurer, à avoir du mal à me lever du siège pour sortir de la salle, tellement je pleurais, tellement le film m'avait touché. C'est brillamment mis en scène, brillamment photographié par Darius Kondji, directeur de la photo absolument talentueux. Je n'ai que des éloges, j'ai du mal à rentrer dans l'analyse du film, mais de toute manière on en reparlera quand il sortira.
Bien sûr.
Mais vraiment, attendez avec impatience ce nouveau film de James Gray.
Avec les thèmes de prédilection qui lui sont chers, les inégalités sociales, le racisme, l'immigration.
Et puis la toxicité d'un père aussi, et comment on a des rapports conflictuels avec son père. Il y a une scène de coup de ceinturon qui ne fera envie à personne dans le film. Non. On en reparlera avec plaisir quand je l'aurai
et
un peu digéré.
Qu'on ne voit pas venir surtout.
C'est ça, moi je suis encore sous le charme et subjugué par ce que j'ai vu.
Et alors justement, Anne Hathaway venait sur la croisette pour la première fois, écoutez-la.
Juste le fait d'être ici, c'est déjà très excitant en sachant que c'est l'une des plus belles régions du monde. Quand j'étais enfant, on ne voyageait pas et encore moins à l'étranger. Donc venir dans des lieux comme Cannes, c'est toujours un immense plaisir. Le Festival de Cannes signifie beaucoup pour moi, en tant que grande cinéphile, avec la qualité de tous les films qui sont présentés et célébrés ici, ça me touche beaucoup. Et en tant qu'actrice, c'est ma première fois, donc je suis vraiment très heureuse.
Première croisette pour Anne Hathaway, mais loin d'être la première fois pour James Gray. C'est la cinquième fois qu'il présente un film en compétition à Cannes. Alors un film sur l'enfance, sur l'éducation. D'ailleurs, Anne Hathaway et James Gray reviennent pour nous sur la frontière entre liberté et autorité dans l'éducation.
Mes enfants sont encore très jeunes, donc j'en suis au moment où j'essaye de leur montrer l'exemple. Je ne leur crie pas dessus s'il y en a un qui se lève de table après 10 minutes ou d'autres choses comme ça, mais on fait de notre mieux pour se rassembler à table, par exemple. Et le but, c'est que si on donne suffisamment d'occasions de réussir à nos enfants, en fait, ils comprendront.
Je suis sûr d'avoir fait plein d'erreurs en tant que père. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. En fait, pour moi, la définition d'un bon parent, c'est d'avoir des enfants qui osent vous dire « Là, papa, tu as fait une erreur ». Et pour le reste, il faut juste que les enfants sachent qu'ils sont voulus et aimés. Donc quand on parle de savoir positionner le curseur entre autorité et liberté, je pense surtout que c'est au cas par cas, en faisant toujours du mieux qu'on peut.
Voilà, donc ça, c'est pour le film de James Gray, Armageddon Time. Didier Alouche, est-ce que vous avez eu un coup de cœur jusqu'à maintenant ?
Parce qu'il reste
encore de nombreux films à voir.
Je partage complètement votre enthousiasme sur Armageddon Time, qui est un film absolument merveilleux. Et je vous mets quelques pièces qu'il sera largement représenté aux prochains Oscars à Los Angeles en l'année prochaine. Voilà, je vous annonce maintenant qu'Anthony Hopkins va gagner l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film-là.
Ah,
j'en
possible.
Prends le pari. Et il y a d'autres films qui m'ont beaucoup impressionné pendant ce début de festival. Il y en a un que j'aime énormément, c'est 3000 Years of Longing, 3000 ans à t'attendre, le film de George Miller. George Miller, vous le connaissez pour Mad Max, pour les trois Mad Max qu'il a fait dans les années 70-80, et le remake qui a été proposé d'ailleurs ici au Festival de Cannes il y a quelques années et qui est un pur chef-d'œuvre, je le crie haut et fort, le dernier Mad Max est une merveille absolue, et ben là ça n'a rien à voir. Là ça n'a rien à voir, c'est une histoire qui vient directement des contes des mille et une nuits, un génie caché dans une bouteille comme dans des milliards d'autres films, et bien un professeur qui est joué par Tilda Swinton va frotter la bouteille, le génie va sortir et va s'en suivre une discussion merveilleuse entre deux personnes dont les âmes sont aussi anciennes qu'elles sont modernes, dont la discussion est aussi engageante qu'elle est enthousiasmante. Et on va revenir sur l'histoire de ce génie. Une histoire qui n'est pas, qui est une histoire merveilleuse, qui est un conte, mais qui est jonchée d'histoires d'amour absolument incroyables, comme on n'en a jamais vu sur les écrans. C'est vraiment un moment merveilleux. Il y a des purs instants de cinéma. Bah, qui nous, je suppose que Victor est d'accord avec moi, qui nous font, mais qui nous donnent des frissons, qui nous donnent des coups de d'éclairs, tellement c'est beau. George Miller, il comprend, il connaît, il fait du cinéma comme absolument personne. Et quel que soit le film, c'est toujours vrai. Et ça l'est encore plus avec celui-là.
Voilà, bon, vous l'aurez compris, ils sont passionnés, Victor,
Victor et Didier. On voit des très bons films, on ouais, est forcément
c'est ça,
heureux.
C'est la raison, Victor, c'est vraiment une belle année, ils ont fait du bon boulot.
Une émission de 18 heures, malheureusement, pour parler de tous ces films. En tout cas, donc il y a les films présentés en compétition au Festival de Cannes ou hors compétition ou dans les compétitions parallèles. Et puis, il y a également les sorties salles. Et Coupé, qui a fait donc l'ouverture du Festival de Cannes, on en parlait avec Romain Duris, est actuellement en salle. Je vous encourage à aller voir ce film. Didier, très rapidement, vous l'avez beaucoup aimé, Coupé ?
Oui, j'aime beaucoup, c'est très sympa.
On rigole bien.
C'est un vrai hommage au Cinoche, au cinéma. C'est le remake d'un film japonais qui est très très bien. Regardez-le aussi si vous pouvez. Et celui-là, c'est vraiment un vrai hommage au Cinoche comme je l'aime.
Et alors moi, j'ai eu un autre coup de cœur et le film est sorti donc hier. Ça s'appelle Frères et Sœurs. C'est le nouveau film d'Arnaud Desplechin avec à l'affiche Marion Cotillard et Melville Poupeau. C'est l'histoire d'une relation fraternelle chaotique. Ils ne s'en sont pas vus depuis plus de 20 ans. Ils se détestent depuis tellement longtemps qu'ils ne savent même plus pourquoi ils se détestent. Mais suite à un incident, ils vont être obligés de se revoir.
Alice, tout était parti d'un mauvais pied. De gauche, puisque c'est celui sur lequel tu te lèves depuis ta naissance. Je devrais écrire plutôt depuis ma naissance.
Il m'aura fallu 10 ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place.
Ma sœur ne me salue plus depuis des années. Quand elle me croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur.
Plus sa notoriété grandissait, plus j'étais déchirée.
Alors un autre film que vous ne pourrez pas voir ce week-end, mais que vous pourrez découvrir en salle dès lundi, puisqu'il est présenté à Cannes dans la sélection Cannes Première, c'est Don Juan, le film de Serge Bozon, avec Tahar Rahim ou encore la merveilleuse Virginie Efira. C'est une revisite du mythique Don Juan. Cette fois-ci, il est tout son contraire. Il n'est obsédé que par une seule femme, une femme qu'il a abandonnée. Et c'est Virginie Efira qui joue cette femme qui ne veut pas de Don Juan, Tahar Rahim.
C'est déjà vu, non ? J'ai besoin d'amour. Pour essayer d'aider l'un à l'autre.
Qu'est-ce que tu veux ?
C'est un cauchemar. Je la vois partout. Julie va revenir. Tu penses qu'on va réussir cette fois ?
Je crois.
Enfin, pour clôturer, à l'affiche cette semaine, J'adore ce que vous faites, la comédie avec Gérard Lanvin et Artus, qui était mon invité la semaine dernière. Gérard Lanvin qui joue son propre rôle, qui est en tournage dans le sud de la France et qui va se faire coller de près, de très très près par Artus, un fan un peu trop fan.
Bonjour, j'ai réparé la piscine. Oula, vous avez chié dedans, quoi.
Ouais, on a déjà dû vous le dire, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin.
En plus petit.
Ouais, Gérard Lanvin en plus petit, ouais.
Mais non ! Gérard !
GG ! Vous êtes tendu, hein. On dirait un vieux chien. Allez !
Vous arrêtez jamais, vous.
Moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. Là, en face de moi, là, j'ai pas Gérard Lanvin. J'ai un Gérard, sûrement, mais c'est pas le Gérard Lanvin. Make-up, hein ? Ça veut dire on se réveille.
Un maquillage.
maquillage.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission spéciale Cannes depuis la Croisette et plus précisément depuis la plage du Majestic. La semaine prochaine, je serai de retour dans nos studios. Mais je vous laisse, Didier et Victor, sur la Croisette. Comme ça, vous pourrez nous donner toutes les news de Cannes.
On se retrouvera avec plaisir, avec grand plaisir.
J'espère bien, sauf si vous avez pris la grosse tête.
Oh, moi non, Victor, je sais pas, mais on vous racontera tout.
Moi non, mais Didier, je sais pas, voilà.
Et promis, on vous envoie les photos de Victor en maillot de bain.
Ah, vous avez intérêt. Merci beaucoup, je vous laisse en compagnie de William L'Emergie. Très beau week-end à vous à l'écoute d'Europe 1.